Les pieds sur terre, Sonia Kronlund
et Delphine Seltel.
Des histoires, des enquêtes, des reportages.
Parce que c'est comme ça que les choses arrivent.
Un endroit où si on n'y est pas, on meurt. C'est comme cela, cash, sans pincette, que le professeur de médecine Elie Azoulay définit à quoi sert un service de réanimation. Il dirige celui de l'hôpital Saint-Louis, à Paris, dans le 10e arrondissement. On y soigne des malades graves, trop graves pour être soignés dans les autres services, en urgence vitale immédiate. D'habitude, il s'agit de patients atteints d'insuffisance rénale, de défaillance cardiaque, de méningite, de lymphome. Mais désormais, avec l'épidémie de coronavirus, on y accueille aussi des malades du Covid, présentant un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Le service en a reçu plus de 200 depuis le début de la crise. Ces malades ont besoin de machines hyper techniques, de personnel spécialement formé, de gestes au millimètre, comme le décubitus ventral, lorsque le patient, dont la vie ne tient qu'à un fil, doit être retourné sur le ventre pour aérer ses poumons. D'ordinaire, dans cette unité de l'hôpital Saint-Louis, il y a 16 lits. Mais avec l'arrivée de la deuxième vague, on pousse les murs pour en faire rentrer plus. 25, 26 cette semaine. Au printemps, on était même monté jusqu'à 50 lits. C'est de cela dont parlent aujourd'hui les soignants du service. Alors que les chiffres deviennent aussi alarmants qu'au mois de mars-avril, infirmières, médecins racontent la première vague, ce qu'ils ont appris de cette maladie, de leur métier aussi, et de notre système sanitaire, à l'acte 2 du drame, ce qu'ils redoutent et envisagent pour la deuxième vague, les dilemmes et les choix qu'ils seront obligés de faire. C'est jusqu'à 14h, dans les pieds sur terre, une vie vaut une vie. À l'hôpital Saint-Louis, un reportage de Joseph Confavreux.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Comme vous êtes un petit peu endormi et que vous avez besoin de beaucoup d'oxygène, on va vous endormir. D'accord, pour vous aider à mieux respirer. D'accord? Ça va? Vous n'avez pas de douleur dans le cou?
Un petit peu
dans le cou, d'accord.
Alors voilà, il y a trois patients dans cette chambre-là qui sont ensemble, séparés juste avec des paravents, qui sont tous endormis et ventilés avec des machines. Et c'est trois patients Covid, du coup, donc avec une charge virale dans la pièce énorme. D'où l'énorme filtre à air qui est censé essayer de filtrer un petit peu l'air dans lequel on vit 12 heures. Alors depuis 8h ce matin, je m'occupe non-stop de ces trois patients Covid qui sont gravissimes, qui sont tous intubés, ventilés, endormis avec des médicaments d'anesthésie générale. Voilà, ça allait un petit peu mieux chez le monsieur du milieu, j'ai dû arrêter quelques médicaments pour voir ce que ça donne, ça va de nouveau mal. Donc on va de nouveau le rendormir et le monsieur du bout qui est dans un état gravissime, qui va du coup être, en plus des médicaments qui l'endorment, installé sur le ventre. Pour améliorer un petit peu l'oxygénation, puisque ça permet de mobiliser une partie des poumons qui est un petit peu tassée dans le lit. Voilà, on est au maximum de ce qu'on peut faire là sur les machines. Donc c'est une mobilisation qui nous permet d'avoir encore une petite marge de manœuvre, mais assez faible. Donc ils ont en moyenne 10 à 15 pouces seringues chacun, qui nous permettent d'administrer en continu à des doses très précises les médicaments. Vous avez le scope, donc c'est l'écran où il y a toutes les constantes en temps réel des patients, la fréquence cardiaque, la saturation, la tension. Vous avez également le fameux respirateur qui nous permet d'apporter l'oxygène de façon importante à nos patients. Et puis voilà, il y a les lits qui sont très médicalisés, les moteurs, et puis tous les petits à côté, voilà.
La cuisine, le lieu du repos ici.
C'est ça. Et encore, quand on peut venir jusqu'au frigo, parce que sinon, en fait, on a tendance à se poser dans la salle de staff pour être plus près des sonnettes.
Ça fait combien de temps que vous travaillez ici ?
Alors, en réanimation à Saint-Louis, ça fait 4 ans. J'ai fait 4 ans d'hémato avant. Et j'ai fait 2 ans de réanimation à Angers, dans le Maine-et-Loire. Moi, ça va faire 10 ans que je suis infirmière et je gagne à peine 2000 euros en travaillant un week-end sur 2. Les mois où je suis de nuit, je gagne 2000 euros. Quand je suis arrivée, on m'avait dit « Ah, tu verras, c'était mieux avant, mais bon, voilà. » Et en fait, plus on avance, plus c'était mieux avant, mais comme c'était déjà pas terrible avant, on se demande où est-ce qu'on va, quoi. Enfin, je pense que c'est des métiers qu'on fait parce qu'on les aime. Je suis désolée, je suis fatiguée en plus, ouais, je me retrouve à pleurer. Non, non, mais c'est terrible parce que c'est toute une profession qui est en souffrance. Qui est en souffrance parce qu'on aime ce qu'on fait, non pas parce qu'on s'occupe, je pense, des gens, voilà, c'est sûr, c'est de l'humain pour de l'humain, mais parce qu'il y a toute une partie qui est hyper intéressante, c'est très technique, moi ça me passionne aussi. Hein, moi j'aime ce côté technique où je réfléchis sur des situations. Alors oui, j'aime m'occuper des gens, ça me plaît hein, de pouvoir discuter avec les familles, les patients. Les conditions de travail sont catastrophiques, ça se dégrade de plus en plus, on le sait, on le voit, mais on est là. Et je vous le dis honnêtement, je ne sais pas pourquoi on est là. En fait, je ne me vois pas dans un autre métier, j'adore ce que je fais, mais c'est dur. À côté de ça, il y a une super ambiance d'équipe. On est, en tout cas, ici, à Saint-Louis, je sais que j'ai des collègues sur qui je peux compter. Et puis, voilà, il y a de l'adrénaline, hein, parce que c'est vrai que quand il y a un arrêt cardiaque, bah, on y va. Et puis, sur le coup, c'est dur parce que c'est hyper stressant. Et puis après, en fait, on rentre chez soi et on se sent utile. Et je suis contente de ma journée. Je sais que j'ai fait un truc chouette, quoi. Cette crise sanitaire, là, c'est ce qui pouvait arriver de mieux finalement au système de soins français, parce qu'on lève le voile sur un truc qui est affligeant, quoi. Enfin, moi je comprends pas comment on en est arrivé là. Et je me suis dit, bah voilà, en fait là, ça y est, ils vont se rendre compte qu'on n'a pas de lit, on n'a pas de personnel, on n'a pas le matériel. Enfin, c'est quand même dingue, on est en France, on se dit qu'on a un des systèmes de soins les meilleurs du monde, quoi. Et en fait, voilà. Donc vraiment, je pense qu'on s'est tous dit ça d'emblée. On va voir ce qui va se passer en fait quand les gens vont mettre le nez dessus. Et en fait, on a eu cette première vague qui a été terrible pour tout le monde. Et là, on se relance dans la deuxième vague et rien n'a été fait entre-temps. Il y a un service hospitalier d'aval qui a été ouvert. Voilà, des lits ont été ouverts. Effectivement, on a augmenté notre capacité. Mais tout ça, j'ai l'impression que c'est le fait juste des hôpitaux entre eux qui se sont un peu gérés. Voilà, nous, c'est beaucoup les médecins qui ont articulé avec les cadres de santé, de proximité. Quoi. Mais j'ai l'impression que de là-haut, du gouvernement, il ne s'est rien passé. Et l'argent, il vient du gouvernement, en fait. Donc, je ne comprends pas. Injecter des milliards chez Air France qui ne volent plus. Et nous, alors, nous augmenter le Ségur, machin, je ne comprends pas.
Vous avez vu l'effet du Ségur, déjà, ou pas encore?
Pas du tout. On était censé avoir cette augmentation. Elle n'est pas là encore pour l'instant. Et puis, soyons honnêtes, je ne suis pas sûre que ce soit avec cette augmentation qu'on va réussir à fidéliser les gens et à donner envie aux gens de venir. Je ne sais pas comment on a fait pour en arriver là. Pour moi, vraiment, personnellement, j'ai pas été en difficulté tant que ça. En fait, je me suis vraiment dit, cool, voilà, il y a un truc horrible, hein, ça va être dur, je savais que ça allait être difficile, mais je me suis dit, bon, allez, ça va faire avancer les choses. On a eu beaucoup, beaucoup d'aide, on a eu beaucoup de renforts, voilà, il y a des gens qui sont revenus, tous les élèves qui étaient en stand-by au niveau des écoles, les infirmières anesthésistes, les infirmières de bloc, etc., sont venus. C'est pareil au niveau des médecins, je pense que j'ai jamais vu autant de médecins en réanimation, des anciens internes, des anciens chefs. Pour moi, ça a été une grosse plus-value parce que j'ai fait des super rencontres. Voilà, j'ai adoré. Voilà. Au niveau du matériel, ça a été difficile. On a toujours été en tension. Je pense que par contre, à l'hôpital Saint-Louis, on a été très chanceux. Les choses ont quand même été globalement bien gérées. Je ne me suis jamais sentie vraiment en danger en venant travailler. Sauf que... on n'avait pas anticipé que ça revienne si vite, si fort et qu'on soit si seul. Et on n'a même aucun renfort, soyons, voilà. L'effectif médical n'a pas changé, les médecins ne sont pas plus. Donc cette deuxième vague, on n'a aucun renfort. Moi, je le vis vraiment comme ça, on est tout seul. Et en fait, ce qui fait peur cette fois-ci, c'est qu'on sait que la deuxième vague revient intensément. Beaucoup trop vite, beaucoup trop fort. Voilà, moi, je suis un peu en colère de voir que cet été, ça a été plutôt très calme, il faut être honnête. Voilà. Mais on avait le temps quand même cet été, je pense, de faire un peu plus que ce qu'on a là. Là, rien n'a changé, si ce n'est qu'on est fatigué et qu'on est seul. On a tous puisé dans nos forces. On le fait toujours depuis des années. Hein. Ça va mal, mais on le fait, on le fait. Sauf que là, vraiment, je sais que tout le monde le dit, tout le monde l'alerte, mais ça ne va vraiment, vraiment pas le faire. Et en fait, quand on aura vraiment, vraiment plus de professionnels de santé, il va y avoir des drames. Et là, les gens vont vraiment, vraiment mourir, quoi. Tant pis, en fait. Tant pis. Il va falloir être capable de se dire « C'est pas moi qui vais sauver le monde ce coup-ci. Pas possible. »
On se lance ? Donc c'est Monsieur S, 67 ans, qui présente une dyspnée, une douleur thoracique pour lesquelles il contacte le centre 15. On s'amuse, quoi. Monsieur S présente comme principaux antécédents une hypertension artérielle, un tabagisme actif à 55 paquets années, une hypercholestérolémie, une sténose carotidienne bilatérale à 50%, une insuffisance rénale sévère compliquant une sténose bilatérale des artères rénales avec une créatinine de référence qui est à 190 micromoles par litre. L'équipe médicale du SAMU retrouve Monsieur S à son domicile dyspnéique avec comme signes généraux donc une pression artérielle à 170 sur 90 mm de mercure. Fréquence cardiaque 80 par minute. Vous réalisez donc un ECG dont les 12 dérivations vous donnent le résultat suivant. Donc, comment vous l'interpréteriez, Jean-Luc ?
Je regarde d'abord la fréquence.
Oui, c'est bien.
Ensuite, je regarde si le rythme est sinusal ou pas. Du coup, il faudrait qu'avant chaque QRS, il y ait une OP, et après chaque OP, il y ait une QRS.
Ok, mais il y a encore un truc. Il faut que cette OP soit positive en D2.
Ok. Ouais.
Voilà. Donc là, est-ce que l'onde P est positive en D2 ?
Ouais.
Oui. Donc on a toutes les conditions, donc il est bien sinusal. Ok. Ensuite, j'embête quelqu'un d'autre ? Marie ?
Moi, j'étais en Alsace au moment de la première vague, j'étais à Strasbourg. L'épicentre le plus important à ce moment-là, c'était Mulhouse, donc pas très loin de chez nous. C'était à la fois beaucoup plus rapide et avec un nombre de patients qui a été beaucoup plus important en plus vite. Là, on a un développement de l'épidémie qui se fait, mais qui n'est pas aussi rapide. C'est pour l'instant ce qui nous permet de faire face dans des conditions difficiles, mais qui nous permet quand même, malgré tout, de faire face. Quand la première vague est survenue en Alsace, on avait vu que cette vague allait devenir vraiment très rapidement trop haute pour nous, pour nos moyens. Il y a un moment où on était quand même franchement dépassé. Concrètement, ça veut dire que nous n'avions pas les moyens humains et matériels de soigner tous les gens que nous aurions voulu soigner. Et ça, oui, ça fait peur. J'ai jamais eu peur pour moi. J'ai toujours considéré que quand on choisit d'être médecin, on en accepte les risques. Par contre, voir venir une situation où on ne serait pas capable de répondre à tous les besoins des patients, ça, on n'y était pas vraiment prêt. Notre mission est devenue une mission que, même si j'aime pas le comparer à une situation de guerre parce qu'on n'avons pas connu la guerre, mais le point commun, c'est qu'on s'est retrouvé parfois dans des positions qu'aurait pu avoir un médecin militaire sur un champ de bataille où 50 de ces hommes sont tombés. Et il ne peut en soigner que 25. Donc je ne dis pas que nous aurions forcément sauvé ces personnes-là, mais je dis que nous n'avons pas pu tenter leur chance compte tenu des moyens que nous avions, malgré tout ce qu'on a pu faire pour essayer d'augmenter ces moyens dès le début. Certains d'entre nous savaient qu'on pouvait être confrontés à ce type de situation, mais on ne savait pas que ça s'appellerait la Covid-19.
Est-ce qu'il y a un cas qui vous a particulièrement marqué pendant cette période ?
Dans les cas les plus difficiles, c'était quand les gens nous demandaient « Mais qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que je vais survivre ?» Et quand vous dites « Je ne sais pas. » Notamment pour les gens où vous auriez voulu pouvoir les admettre en réanimation, mais vous n'aviez plus les moyens de le faire. Pas plus que vous n'aviez les moyens de les transférer, puisque les capacités de transfert étaient aussi saturées à une certaine époque. Et ça a modifié notre façon de faire les choses à ce moment-là. Mais ça nous a aussi montré qu'on était capable de faire mieux, parce que, bien évidemment, si c'était à refaire, on voit mieux les éléments sur lesquels on pourrait intervenir pour soigner plus de personnes, avec moins de dommages collatéraux, moins d'effets secondaires, un peu mieux choisir les traitements. Et puis l'autre chose, c'est, à mon sens, de garder à l'esprit qu'on peut, en se mettant ensemble, accroître quand même nos possibilités pendant un temps donné face à une situation donnée. Mais c'est pas non plus l'idéal.
Mais là, aujourd'hui, vous vous sentez comment ?
Prêt à faire face. Prêt à faire face parce que c'est au moins quelque chose qu'on connaît. C'est un ennemi que je connais. Je l'ai même éprouvé moi-même puisque j'ai eu la Covid. Je m'en suis remis. Donc j'ai absolument pas peur de cet ennemi. C'est juste que je n'ai pas envie que les gens, les patients, payent le même tribut que ce qu'ils ont payé pendant la première vague sur le front de l'Est, pour l'appeler comme ça. Il faut toujours être très humble dans la façon dont on voit nos capacités, à la fois sur le plan médical et sur le plan de l'organisation. On peut tout à fait être dépassé par la situation, et même à court terme. Ça n'est pas mon sentiment aujourd'hui, mais si vous me demandez si c'est possible, oui, c'est possible. C'est arrivé une fois, ça peut arriver une deuxième fois.
Là, en fait, vous pouvez voir, il y a quatre scopes, nous on appelle ça comme ça. En fait, c'est des écrans de surveillance où il y a les quatre patients de notre réanimation qui sont représentés. Donc, il y a la fréquence cardiaque, il y a la saturation en oxygène, c'est le taux d'oxygène dans le sang, il y a l'attention des patients, et ben voilà. Donc, je m'appelle Charlotte, j'ai 33 ans et en fait, j'ai fait aide-soignante pendant 10 ans. Puis après, j'ai fait la formation d'infirmière pendant 3 ans qui m'a été payée par l'APHP. Et depuis 2 ans et demi, je suis dans ce service en réanimation médicale.
Pour vous, on est à l'approche de la deuxième vague, au milieu, enfin, comment vous le sentez d'ici ?
Pour moi, on est dans le début, malheureusement. Donc on va dire qu'on commence à y rentrer et que j'ai peur qu'en fait ce soit plus long. Peut-être ça va être moins difficile parce que c'est des patients maintenant qu'on arrive à peu près à comprendre et on voit comment il faut les prendre à peu près en soin. Donc il y a des choses, je pense peut-être qu'on arrive un peu plus à prévoir que la première vague. Mais ce qui va être plus dur, c'est que là en fait nous on n'a pas vraiment de renfort. Enfin nous on avait des infirmières anesthésistes qui étaient venues nous aider à la première vague, là on n'en a pas. On avait des étudiantes infirmières, là on n'en a pas. On avait des étudiants en médecine, là on n'en a pas. Enfin en fait voilà, et notre responsable en fait elle n'arrête pas de demander de l'aide, mais vraiment là c'est compliqué. Donc c'est plus ça qui me fait peur et en fait on est tous fatigués et quand même face à la maladie. On est en plein dans la pandémie, on voit des patients qui se dégradent dans la journée, on voit des patients qui décèdent dans la journée, on voit des familles qui sont dans l'angoisse, qui pleurent, donc ça joue tous un peu sur notre morale. Et puis après on est comme tout le monde aussi, c'est qu'en fait on est confiné, donc il y a aussi cette angoisse qui je pense est décuplée ici. Et après on rentre chez nous, bah il n'y a pas grand monde et puis on ne peut pas voir nos proches. Moi, je vois beaucoup moins mes parents parce que j'essaye de les préserver, parce que je peux quand même être porteuse du Covid. Et puis, en même temps, on est censé pas trop se voir les uns les autres pendant un confinement. Donc, j'essaye d'être plutôt respectueuse par rapport à ça. Je travaille en 12 heures, donc on fait 7h15, 19h15. Enfin, ça, c'est sur le papier, hein, parce que bien sûr, en fait, à 19h15, il y a nos collègues de nuit qui arrivent et donc on fait les transmissions. Donc, des fois, ça peut aller bien au-delà de 19h15, bien sûr. Et on fait 2 mois de jour avec ces horaires et 1 mois de nuit avec les horaires inverses, c'est-à-dire 19h15, 7h15. On a une semaine de 24 heures et une semaine de 60 heures. On travaille en quinzaine, en fait, et ça fonctionne comme ça.
Et ça, comment vous organisez ça personnellement ?
Ben moi, en fait, j'ai un petit garçon, mais je l'ai en garde alternée avec un papa qui travaille aussi à l'hôpital et en fait qui est carrément en roulement inverse. Donc, en fait, on arrive à se débrouiller. Et entre-temps aussi, il y a ma mère qui nous rend des services par moment et qui le garde ou qui l'emmène à l'école si besoin.
Est-ce que vous avez vu les effets du Ségur?
C'est très drôle. Parce que justement, on en parlait hier avec des collègues. Donc, on a tous ouvert notre fiche de paye du mois de septembre qui vient seulement d'arriver. Bien sûr, on est début novembre, c'est tout à fait normal déjà. Et donc là, quand on ouvre, on compare tout. Et en fait, on ne voit pas ces 90 euros tant promis par notre cher ministre. Donc voilà, en fait, ça me dépite, quoi. Parce que déjà, je trouve que 90 euros, voilà, déjà, ça m'agace un peu quand même. Parce qu'en fait, on n'est pas reconnu Bac plus 3, on ne reconnaît pas la compétence de la réanimation, on ne reconnaît pas non plus la compétence ici, on dialyse énormément de patients. Donc en fait, nous, on n'a ni prime dialyse, ni prime réanimation, ni prime urgence. Et là, on n'a même pas la prime du Ségur. Donc en fait, bon, bah, finalement, nous, rien n'a changé. Moi, je suis à 1800 euros, quoi. Et 1900 quand je suis de nuit. Si je reste, ça sera pour la place que j'ai dans mon équipe et pour les compétences que j'ai acquises ici. Et si je pars, c'est parce que ça impactera beaucoup trop ma vie privée. Et parce que je serai trop fatiguée. C'est la fatigue, en fait, moi, vraiment, que je sens que je cumule beaucoup. Après, je suis une éponge, en fait. Donc, tout ça, je trouve ça angoissant. Et je pense que ça se répercute sur les devoirs à la maison, faire à manger à la maison. Enfin, voilà, je veux dire, moi, je suis quelqu'un de quand même très active. Je fais aussi du footing. Donc, en fait, quand je commence à ne plus arriver à courir, par exemple, ça m'embête un petit peu, en fait. Et j'en ai besoin pour mon bien-être et pour les patients aussi, en fait.
Des cuivres juste d'orfait.
Oui,
maintenant
ils sont
faits. Bah, ils sont faits.
C'est
bien
super.
Deux BPA. Oui. Votre prothèse dentaire, il n'en a pas. L'angoscope fonctionnel, oui.
Oui.
Motivation, oui. Temps de 10, c'est bon. Membre des chemins, là. Je vais mettre. Le stop, c'est bon. Cap d'eau, c'est bon. Guédel,
ok.
Ouais, bah attends, je vais chercher la sonde.
Alors, je m'appelle Elie Azoulay, je suis médecin, je suis réanimateur médical, hein, c'est-à-dire la spécialité médecine intensive et réanimation, et je travaille à l'hôpital Saint-Louis, où j'exerce les fonctions de chef de service, hein, du service de médecine intensive et réanimation. Les problèmes de la première vague sont exactement les problèmes de la seconde vague. Manque de personnel, manque de lits, incapacité à retrouver des soignants. Et le problème est passé quand même d'une maladie qui était prédominante sur 3 départements, le Nord-Lest et l'Île-de-France, à une maladie qui est prédominante sur 96 départements. Donc si vous voulez, nous ne pouvons plus transférer de malades des régions non affectées vers les régions infectées. Et puis en mars, avril, les autres patients n'étaient pas là, c'était pas un moment hivernal, c'était pas un moment d'automne, il y a moins de pneumonie, moins d'infections, etc., moins de réanimation. Là on en a beaucoup. Et si vous voulez, aujourd'hui, pour moi, le Covid est au milieu du non-Covid. On a des patients qui ont une atteinte Covid, hein, c'est-à-dire une maladie 100% réversible. S'il en guérit, il peut revenir à qui il était avant ou qui elle était avant. Donc ce patient-là, il occupe les mêmes lits que d'autres malades, hein, qui habituellement occupent les lits de réanimation, qui ont des arrêts cardiaques, qui ont des insuffisances respiratoires, qui ont des complications de la chimio, qui ont des complications de la chirurgie, qui ont des complications de la greffe, etc. Ça sollicite ma morale sur la priorité des patients. Je vais devoir ne pas prendre certains patients. Qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais leur dire? Eh bien, il faut quand même accepter que notre capacité à faire ces choix-là, elle est limitée par le hasard de l'erreur, on peut se tromper, d'une part, et puis d'autre part, par les critères qu'on utilise. Par exemple, je n'ai jamais pris une décision basée sur l'âge de quelqu'un. Mon collègue, cette nuit, a été sollicité pour une patiente nonagénaire qui avait un Covid sévère. Vous me direz, 90 ans, c'est un peu vieux pour la réanimation, puisque quand même, la réanimation, elle vous altère un peu, donc... 6 mois après la réa, vous avez quand même descendu une bonne marge d'escalier dans votre vie. Si vous êtes déjà à plus de 90 ans, mais c'est pas une raison. On y va quand même, on examine le patient, on lui parle, on parle à la famille si elle est là, et puis on prend une décision de... Mais c'est jamais l'âge. Sinon, on pourrait faire des logiciels ou des ordinateurs qui prennent des décisions. On aurait dû se déconfiner autrement. On n'aurait pas dû donner autant de liberté aux gens dont on savait très bien que ces comportements finiraient par entraîner les débordements que nous assumons aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait qu'on a été anesthésié comme ça pour ne rien faire? On est resté inerte. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas repris le confinement en août, hein? C'est parce que les chiffres n'étaient pas là? C'est parce que les gens ne mouraient pas? Mais d'accord, mais ça n'est pas ça. Les critères de jugement des attitudes épidémiologiques, ces critères ne sont pas immédiats. Quand des équipes de réanimation pensent à l'avenir, ils savent que ces choses-là arrivent. Donc, est-ce qu'on pouvait nier, quand on a commencé à voir ce qui se passait cet été, qu'il y aurait une résurgence épidémique à la rentrée, et qu'elle arriverait probablement après que les systèmes scolaires reprennent, etc. Non. Donc, on le savait. Donc, on est là, on va tenir. Ça tiendra toujours. Mais malheureusement, ça coûte aux infirmiers et aux médecins, mais très franchement, plus aux infirmiers de ce qu'on a pu observer. Et on a bien vu combien ils étaient affectés. 40% ne dorment pas, ils ont encore de l'insomnie. Il y en a la moitié qui prennent des psychotropes, hein, un peu ou beaucoup. Il y en a qui ont réveillé des addictions, le tabac, etc. Et autre chose, il y en a qui, voilà, qui n'ont pas pu s'occuper de leur famille. Il y en a qui ont eu peur, comme des malades, d'infecter leur conjoint, leurs enfants, leurs parents. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc là, les gens, ils sont vraiment très tendus. En fait, les gens ont peur. Ils ont peur de tomber malade. Ils ont peur que leurs proches souffrent de leur faute. Ils ont peur de ne pas être au niveau. Ils ont peur de ne pas y arriver. Ils ont peur. Deuxième problème, c'est le remords, la culpabilité. Il y a des malades qu'on n'a pas pu réanimer. Il y a des malades qu'on n'a pas pu prendre. Il y a des SAMU qui nous ont appelés et on n'avait plus de lit, plus la capacité de prendre un malade. On était à fond. Tout ça, ça a des séquelles. Et donc, on est là, on va tenir, on va faire le boulot, parce que c'est notre travail. Les boulangers continuent à faire du pain, et nous, on continue à faire du soin, de réanimation. Tout le monde est là, et tout le monde fait son travail. Donc, on va tenir. On va tenir. Outside of the heart of it, you watching me fall. We spoke for an hour then, said nothing at all.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, un reportage de Joseph Confavreux, journaliste à Mediapart, réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci tout particulièrement à Elie Azoulay, Charlotte Bellotti, Anne-Sophie Breteau et Raphaël Clériel. Merci à toutes les équipes du service de réanimation de l'hôpital Saint-Louis pour leur accueil. Merci à la PHP et à Mediapart. Vous pouvez retrouver La vie en réanimation, une série d'articles de Joseph Confavreux sur le site de Mediapart. Notre attaché de production, c'est Mélissa Foust et François Bréus, notre stagiaire.